Bonjour à tous. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, ce matin, c'est une méditation sur le tableau très célèbre de Rembrandt, Le retour du fils prodigue. Et voilà, une méditation sur l'histoire du fils prodigue à travers ce tableau et à travers la vie de Rembrandt lui-même. Alors, ce qui est marquant en regardant de près la vie et l'œuvre de Rembrandt, si vous commencez à vous intéresser à cet artiste, vous allez vous rendre compte de quelque chose très rapidement, c'est que Rembrandt est avant tout quelqu'un de paradoxal. En menant mes recherches sur lui, je me suis rapidement rendu compte qu'en ce qui concerne son cheminement spirituel, les dates ne correspondent pas avec une évolution linéaire parfaite. C'est plutôt l'histoire d'une progression lente, détaillée, ponctuée de rebondissements, de retours en arrière et de bonds en avant, à l'image de la vie elle-même. Ce que je vous propose ce soir, ce n'est pas une conférence exhaustive sur l'œuvre religieuse de Rembrandt, mais plutôt une réflexion contemplative et méditative sur l'un de ses derniers tableaux, Le retour du fils prodigue. Il l'a terminé en 1668, un an avant de mourir. Il me semble que plus on étudie ce tableau, plus on se plonge dans la vie de cet artiste et plus on est amené à le voir comme la déclaration finale d'une vie tumultueuse et tourmentée. En effet, bien que n'étant pas sa toute dernière peinture, il s'agit néanmoins de son dernier et peut-être de son plus grand chef-d'œuvre, l'aboutissement de toute une vie. À travers ce tableau et l'histoire qu'il raconte, je vous invite à explorer la vie de Rembrandt et de voir comment, à mon avis, son œuvre d'artiste s'entrelace de façon inextricable avec sa compréhension du message du Christ. Et avant d'embarquer sur ce voyage, je souhaite noter au passage que je m'appuie en grande partie sur la monographie que Henri Nouwen consacre à ce tableau. Alors, tout d'abord, que décrit ce tableau? L'histoire qui est dépeinte se trouve dans la Bible, dans l'évangile de Luc. C'est une parabole qui nous enseigne sur la nature de Dieu et la nature de l'homme. Et je vais demander à Laetitia de venir nous le lire.
Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père, alors qu'il était encore loin. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit : « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père : « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai à toi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé.
Peut-être, quand vous regardez l'interprétation que donne Rembrandt de cette parabole, il peut paraître surprenant de penser que Rembrandt n'a pas toujours été caractérisé par une grande sensibilité émotive. Rembrandt était longtemps comme le jeune homme riche de la parabole. Arrivé à la trentaine, sûr de son succès, aimé de tous, Rembrandt possède toutes les caractéristiques du fils prodigue. Impertinent, assuré, dépensier, sensuel et très arrogant. D'ailleurs, il ne semble pas en avoir eu honte. À 30 ans, il se représente comme le fils perdu dans une maison close. Voici son tableau qu'il a intitulé « Le fils prodigue dans une maison close, auto-portrait. Aucune intériorité n'est visible, c'est le moins qu'on puisse dire. Le rideau tiré dans un coin du tableau nous fait penser qu'on est bien dans une pièce fermée, une maison close. Ivre, avec ses yeux remplis de désir, il lance un regard provocateur au spectateur, comme pour dire « Voyez comme je m'amuse !» Avec sa main droite, il lève un verre de vin à moitié vide, tandis qu'avec sa main gauche, il touche le bas du dos de la fille, une prostituée, assise sur ses genoux. Les longs cheveux de l'artiste, son chapeau de velours à plumes et son épée sont tous des signes de sa richesse et de sa volonté de le faire connaître. Les biographes de Rembrandt le décrivent comme un jeune homme orgueilleux, fortement convaincu de son propre génie et impatient d'explorer tout ce que le monde peut lui offrir. Un extroverti qui aime le luxe et semble être indifférent à ceux qui l'entourent. Une de ses plus grandes préoccupations dans la vie, c'est l'argent. Il gagne beaucoup, il dépense beaucoup, beaucoup. Les autoportraits peints entre 25 et 35 ans révèlent un homme affamé de renommée et d'adulation, aimant les costumes extravagants. On peut noter d'ailleurs dans beaucoup de ces autoportraits un goût prononcé pour l'auto-déguisement et la mise en scène. Toutefois, cette courte période de succès, de popularité et de richesse est suivi de beaucoup de deuil, de malchance et de désastre. Tenter de résumer les nombreux malheurs qui s'abattent sur lui peut s'avérer accablant. Ils ne sont pas si éloignés de ceux du fils prodigue. À l'âge de 29 ans, Rembrandt perd son premier-né, un fils. Les deuils se poursuivent en succession rapide. À 32 ans, son deuxième enfant meurt. Et 2 ans plus tard, c'est au tour de son troisième enfant. Encore 2 ans plus tard, lorsqu'il a que 36 ans, sa femme Saskia, qu'il aime profondément et qu'il admire, meurt elle aussi. Rembrandt se retrouve seul avec son fils de 9 mois, Titus. Après la mort de Saskia, la vie de Rembrandt continue à être marquée par d'innombrables douleurs et problèmes. Une relation très malheureuse avec sa première compagne est suivie par une relation plus stable avec sa femme de ménage. Elle lui donne un fils qui, lui, meurt aussi. Et puis elle meurt à son tour. Rembrandt innove sans cesse avec de nouvelles mises en scène et une forme stylistique de plus en plus libérée des conventions de la tradition. Trop en avance sur son temps, après quelques courtes années de succès, les commandes se font de plus en plus rares. Depuis la mort de sa chère Saskia, Rembrandt perd peu à peu son renommée de grand peintre et commence à être remplacé par d'autres peintres plus à la mode. Ses problèmes financiers deviennent si graves qu'à l'âge de 50 ans, il est déclaré insolvable et tout, absolument tout ce qu'il possède est saisi jusqu'au chiffon de ménage. Nous avons les inventaires de ce qui a été saisi. Même les chiffons de ménage ont été confisqués. Sa collection prisée de peintures et d'artifices, sa collection de livres, sa maison à Amsterdam et ses meubles sont tous vendus aux enchères. Après ces événements, et quoique Rembrandt ne sera jamais complètement libéré de ses dettes ou de ses créanciers, il semble trouver un peu de paix. La chaleur et l'intériorité grandissante de ses tableaux nous montrent que les nombreuses désillusions ne l'ont pas rendu amer. Au contraire, elle semble avoir eu un effet purifiant sur sa manière de voir. Il n'est plus distrait par la splendeur des choses extérieures ou l'affichage théâtral et commence à voir l'homme avec un regard bien plus pénétrant. En 1663, sa compagne meurt et 5 ans plus tard, son fils unique, Titus, décède de manière tragique. Il n'aura que 26 ans, Titus. Lorsque Rembrandt meurt lui-même quelques mois plus tard, il est devenu un vieillard solitaire et pauvre. Il n'aura même pas de quoi s'offrir un tombeau. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder quelques-uns de ces 99 portraits, autoportraits qu'il a fait durant sa vie. Ces autoportraits sont un peu comme un journal intime. Pour un artiste, se dépeindre lui-même, c'est un peu comme un journal intime pour un écrivain. Et donc, vous allez voir de ses plus... Ça, c'est son premier autoportrait jusqu'à son dernier autoportrait, un peu le parcours de sa vie. Thank you. Alors, revenons à notre tableau. Lorsque je regarde le fils prodigue, s'agenouillant devant son père et appuyant son visage contre sa poitrine, je ne peux que voir l'artiste, auparavant si vénéré, qui est arrivé à la conclusion douloureuse que toute la gloire qu'il avait amassée pour lui-même s'est avérée être de la vaine gloire. En peignant ce fils prodigue qui revient à son père, Rembrandt se décrit lui-même. Rembrandt est le fils prodigue. De l'autoportrait du fils prodigue il y a 30 ans plus tôt, nous sommes arrivés à l'autoportrait de son retour. Au lieu des habits riches dans lesquels le jeune Rembrandt s'est figuré dans la maison close, il ne porte maintenant qu'un sous-vêtement déchiré. Rien ne reste de son regard provocateur, orgueilleux. Ici, on discerne à peine son visage, blotti tel qu'il est contre son père. En déplaçant notre regard du fils repentant au père compatissant, nous apercevons que la lumière scintillante des accessoires extérieurs, des mises en scène, des costumes, cette lumière-là s'est éteinte et a été remplacée par la lumière intérieure de la vieillesse. Cette lumière intérieure témoigne du chemin parcouru par l'artiste, commençant par la recherche de la gloire extérieure qui séduit. Il a été amené à connaître la gloire éternelle, intérieure, immortelle. Lorsqu'il a peint ce tableau, il avait vécu une vie marquée par beaucoup de succès, de la célébrité, suivie de beaucoup de pertes douloureuses, de déceptions, d'échecs. À travers tout cela, il a progressé de la lumière extérieure à la lumière intérieure, de la représentation d'événements extérieurs à la représentation de significations intérieures. D'une vie remplie de choses et de personnes à une vie marquée par le silence et la solitude. Plongeons-nous maintenant dans cette histoire qui est la parabole du fils prodigue. Lorsque le fils demande non seulement la division des biens du père, mais aussi de pouvoir disposer de sa part avant le décès de son père, en vérité, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il souhaite que son père meure. Le départ du fils est donc beaucoup plus offensif que ce qu'on pourrait le croire au premier regard. C'est le rejet de tout ce que sa famille et sa communauté avaient de plus cher. Ce n'est pas simplement le désir d'un jeune homme d'explorer de nouveaux horizons. C'est une coupure nette avec la manière de penser, d'agir et de vivre qui lui a été transmis de génération en génération comme un héritage sacré. Le pays lointain est le lieu où tout ce qui est considéré saint dans son foyer est méprisé, ridiculisé. À un niveau plus profond, ce départ nous parle d'un départ spirituel, car le père de cette histoire, c'est bien Dieu. Ce départ est un déni de la part du fils. Il décide de vivre comme s'il n'avait pas de père, comme s'il n'avait pas de maison et qu'il était obligé de chercher ici et là pour en trouver. Si on comprend bien cette parabole de Jésus, on comprend que les mains du Père étaient en vérité depuis toujours étendues, même lorsqu'il n'y avait pas d'épaule sur laquelle les placer. Dieu n'avait pas retiré ses bras, n'avait pas retiré sa bénédiction, n'avait jamais arrêté de considérer son fils comme le bien-aimé. Mais le Père ne pouvait obliger son fils à rester à la maison. Il ne pouvait imposer son amour à son bien-aimé. Il devait le laisser partir en liberté, bien qu'ils sachent la douleur qui en résulterait pour eux deux. C'est parce qu'il l'aimait tellement qu'il l'a laissé libre de partir. Le jeune homme qui revient est un homme très, très pauvre. Il a quitté la maison avec beaucoup d'orgueil, déterminé à vivre de sa manière. Il revient avec rien. Son argent, sa santé, son honneur, son respect de soi, sa réputation, tout a été dissipé. Rembrandt ne nous laisse en aucun doute sur sa condition. Sa tête est tondue. Il n'a plus les longs cheveux de la jeunesse avec lesquels Rembrandt s'était dépeint sous les traits du jeune prodigue dans la maison close. Lorsqu'on tond les cheveux de quelqu'un, que ce soit dans l'armée ou dans une prison, c'est une façon de lui enlever une des marques de son identité. Pour renforcer cette perte d'identité, les habits que Rembrandt lui donne sont des sous-vêtements qui couvrent à peine son corps émacié. Contrastons cela avec le père et l'homme debout. Tous les deux portent de larges capes rouges qui leur confèrent un air de dignité. Le fils qui s'agenouille ne possède pas de cape. Les sous-vêtements déchirés et jaunis semblent juste suffisants pour couvrir le corps épuisé et usé. Les plantes de ses pieds nous racontent l'histoire d'un voyage long et humiliant. Le pied gauche qui s'est glissé de sa sandale usée porte des traces de blessures. Le pied droit, partiellement recouvert par une sandale cassée, nous parle aussi de la souffrance et de la misère. Voici un homme qui est dépossédé de tout, sauf une chose. Son épée. Pourquoi est-ce que Rembrandt a choisi d'insérer ce détail, l'épée, s'il n'est pas contenu dans le récit de Jésus? Rembrandt l'a sans doute rajouté pour nous montrer que s'il revient comme un mendiant, il n'avait cependant pas, au fond de lui, oublié qu'il restait malgré tout le fils de son père. Sinon, il aurait depuis longtemps vendu l'épée, symbole de son statut de fils. C'est ce souvenir qui l'a finalement convaincu de revenir. Si on regarde bien ce tableau, on voit bien plus que le simple geste compatissant d'un père envers son enfant. Ici, l'événement qu'on perçoit, c'est la fin d'une grande révolte. Voici un homme qui est allé très loin dans un pays étranger et qui a perdu tout ce qu'il avait amené avec lui. Il est vidé, humilié et vaincu. Lui, qui était auparavant tant comme son père, possède maintenant l'apparence d'un esclave. Ce fils est arrivé au bout de lui-même. Il est complètement perdu. Et c'est justement la reconnaissance de cet état qui le ramène à lui. Cette reconnaissance le permet de prendre conscience du mal qu'il a fait et l'amène à se repentir. Dans ce moment critique de son existence, qu'est-ce qui l'amène à choisir la vie? C'est la redécouverte de la partie la plus profonde, la plus fondamentale de son être. Quoiqu'en n'ayant plus d'amis, n'ayant plus d'argent, n'ayant plus de réputation, n'ayant plus de respect pour lui-même, il est resté, malgré tout, le fils de son père. En fait, c'est la perte de tout qui l'amène au fondement de son identité. Il a touché
le socle de ce que c'est d'être fils. Pour une histoire qui condense beaucoup d'actions et qui est toujours représentée par les artistes de l'époque de manière mouvementée, le tableau de Rembrandt se démarque fortement. La scène qui est décrite n'affiche presque aucun mouvement externe. Contrastons-la avec la gravure qu'il exécute lorsqu'il avait 30 ans. Tout comme l'histoire qu'elle raconte, cette gravure est remplie d'action. Le père court vers le fils et le fils se jette aux pieds de ce dernier. Remarquons la hâte du père. On peut voir qu'il est en train de perdre une de ses sandales et que son bâton est jeté par terre. Ce tableau, au contraire, exécuté presque 30 ans plus tard, est un tableau d'une immobilité absolue. Le geste du père envers le fils n'est pas le geste d'un instant, figé par des minutes et des heures. Le geste du père est un geste d'une bénédiction éternelle. Le fils se reposant sur la poitrine de son père est une paix éternelle. Dans le calme de la composition, le moment de pardon dure sans fin. Comme dit Jacob Rosenberg, le groupe du père et du fils est extérieurement presque immobile, mais intérieurement d'autant plus mouvementé. Mais ni le tableau de Rembrandt, ni la parabole qui décrit, nous laissent avec la certitude d'une fin heureuse. Regardons de plus près les spectateurs de la scène centrale. Ils sont énigmatiques, c'est certain. Surtout l'homme qui se tient à la droite du tableau. Oui, il y a de la beauté, de la gloire, du salut dans cette scène, mais il y a également les yeux critiques d'observateurs qui ne s'engagent pas. Ils empêchent toute notion d'une solution rapide et romantique à la question d'une réconciliation spirituelle. Le voyage du fils cadet ne peut être séparé de celui de son frère aîné. Et c'est donc maintenant vers lui que nous allons nous diriger. À l'époque de Rembrandt, le fils aîné était vu comme un symbole des chefs religieux qui s'opposaient à Jésus, les pharisiens. L'homme debout, qui regarde le père de façon énigmatique, est le fils aîné, qui représente ses chefs religieux. Ceci dit, en mettant le fils aîné comme premier témoin de cette scène de retrouvailles, Rembrandt fait quelque chose d'original. Il dépasse non seulement le texte littéral de la parabole, puisque normalement, le fils aîné fait partie de la scène suivante, après la réconciliation. Il n'est pas normalement présent au moment de la réconciliation. Donc, il dépasse le texte littéral, mais il dépasse aussi la tradition picturale de son époque où chaque scène était montrée par un tableau différent. Rembrandt crée donc quelque chose d'inédit ici en mêlant les deux scènes. Il semblerait qu'il est plus intéressé à montrer le sens de la parabole que la stricte chronologie de l'histoire. Pourquoi ?
Pourquoi est-ce que Rembrandt tient tant à inclure le fils aîné en tant qu'observateur de cette scène, alors que normalement, il fait partie seulement de la scène suivante? Pour trouver la réponse, il me semble nécessaire de regarder ce personnage de plus près. Lorsqu'on ne regarde que la scène du fils prodigue et de son père, c'est facile de considérer que c'est un tableau rassurant, émouvant et accueillant. Mais lorsque nous regardons la scène en entière, nous réalisons la complexité de la réunion. L'observateur principal, le fils aîné, paraît très renfermé. Il regarde le père, mais non avec joie. Il ne tend pas le bras, il ne sourit pas, il n'accueille pas. Il se tient devant la plateforme où sont réunis, remarquez, une plateforme où sont réunis le père et le fils cadet, apparemment réticent à s'approcher plus. C'est vrai que le retour est l'élément central du tableau et pourtant, ce n'est pas, si vous regardez bien, ce n'est pas situé au centre physique de la toile. Le retour prend place sur la partie gauche de la peinture, tandis que le fils aîné, grand et sévère, domine la partie droite. Il y a un grand espace qui sépare le fils et le fils aîné et son père. Un espace créant une tension qui demande une résolution. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cet homme? Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il finalement s'approcher et embrasser son frère comme l'a fait son père? Ou va-t-il s'en aller en colère et dégoût? La façon dont le fils aîné a été peint par Rembrandt nous le représente très semblable au père. Tous les deux sont barbus et portent de larges capes rouges. Ces éléments externes semblent suggérer que le fils et son père ont beaucoup en commun. Ce lien est renforcé par la lumière qui lie son visage d'une façon très directe avec le visage lumineux de son père. Mais quelle différence douloureuse entre les deux. Le père se courbe sur son fils repentant. Le fils aîné se tient droit, debout, avec rigueur. Une posture qui est accentuée par la verticalité du bâton qu'il tient dans ses mains. La cape du père est étendue et accueillante. Celle du fils est suspendue de façon plate, aplatie sur son corps. Les mains du père sont étendues et touchent le cadet d'un geste de bénédiction. Celles du fils sont serrées ensemble et tenues près de son corps. Il y a de la lumière sur les deux visages, mais la lumière du visage du père coule à travers tout son corps, en particulier ses mains, et englobe le fils prodigue dans un auréole de chaleur lumineuse. La lumière sur le visage du fils aîné est froide et restreinte, et son corps reste en ombre. Cette parabole du fils prodigue pourrait aussi s'intituler la parabole des deux fils perdu. Non seulement le fils cadet s'est perdu, mais celui qui est resté à la maison est également devenu un homme perdu. Extérieurement, il a fait toutes les choses qu'un bon fils est censé faire, mais intérieurement, il s'est éloigné de son père. Il a fait son devoir, il a travaillé dur toute la journée, il a accompli toutes ses obligations, mais il est devenu progressivement malheureux et de moins en moins libre. Bien qu'il n'y ait rien d'extérieur qui l'empêche, le fils aîné est incapable à ce stade d'entrer dans la maison et de partager la joie de son père. Ses griffes intérieures le paralysent. Rembrandt a perçu la signification profonde de cette situation lorsqu'il a dépeint le fils aîné séparé de la scène où le cadet est reçu dans la joie du père. Il n'a pas dépeint la fête avec ses musiciens et ses danseurs. Ces choses-là sont que la représentation extérieure de la joie du père. Au lieu de la fête, Rembrandt a peint la lumière radieuse qui enveloppe le père et le fils prodigue. La joie. La joie que montre Rembrandt est une joie profonde qui appartient à la maison de Luc. L'histoire de Luc exprime très clairement que le père offre son amour à ses deux enfants. Il n'accourt pas seulement pour accueillir le fils égaré, mais il vient également à la rencontre de son fils aîné dès que ce dernier rentre des champs et l'encourage à entrer pour participer aux réjouissances. Dans l'histoire, on peut imaginer que le fils aîné, qui se tient dehors dans l'obscurité, ne voulait pas entrer dans la maison pleine de lumière et de réjouissance. Mais Rembrandt décide de dépeindre ni la maison, ni les champs. Il représente toute la scène au travers des ténèbres et de la lumière. L'étreinte du père plein de lumière, c'est la maison de Dieu. Toute la musique et toutes les danses sont là. Le fils aîné se tient en dehors de cette cercle d'amour, refusant d'y pénétrer. La lumière qui éclaire son visage nous fait clairement comprendre que lui, il est aussi appelé à la lumière, mais il ne peut y être contraint. En représentant le récit de ses deux fils, cette œuvre résume une lutte spirituelle et les choix difficiles que cette lutte impose. En peignant non seulement le jeune fils, mais aussi le fils aîné, qui peut encore choisir pour ou contre l'amour qui lui est offert, Rembrandt nous présente le drame intérieur de l'âme, le sien ainsi que celui des spectateurs dans la scène et hors de la scène. Tout comme la parabole du fils prodigue condense le message de Jésus et appelle les auditeurs à faire leur propre choix en conséquence, ainsi le tableau de Rembrandt résume sa propre lutte spirituelle et invite les spectateurs dans la scène et hors de la scène à choisir pour eux-mêmes. Cette procédure n'est pas unique dans son œuvre, comme l'ont montré de façon conséquente certains spécialistes d'histoire de l'art. On voit que Rembrandt, à travers les centaines de dessins et de tableaux qu'il a fait à propos de Jésus, il témoigne d'une forte prédilection pour les scènes où le spectateur ou l'auditeur est mis devant un choix face à Jésus. Voir ou ne pas voir. Croire ou ne pas croire. En regardant le fils aîné et en réfléchissant à la vie et l'œuvre de Rembrandt, je pense que l'artiste a souvent rencontré ce fils aîné. Rembrandt, dépensier, impulsif, sensuel, n'est pas, à mon avis, le fils aîné. Refusant de devenir membre de l'église d'État et souvent critiqué pour ses mœurs, Rembrandt connaît ce frère aîné de près. Comme le montrent maintes dessins, tableaux et gravures de sa main, Rembrandt s'intéresse à ceux qui sont rejetés par la société bienfaisante, les pauvres, les exclus, les vieillards, les malades, les gens de mauvaise vie. Et son regard sur l'institution religieuse est d'autant plus accablant. Un grand nombre de ses tableaux religieux ont pour thème l'opposition entre la loi de l'Ancien Testament et la grâce de Dieu qui est révélée dans la personne de Jésus. Dans les œuvres de Rembrandt, souvent les chefs religieux sont représentés sont représentés comme voulant obéir à des règles pour pouvoir se justifier devant Dieu, rejetant ainsi l'amour immérité de Dieu. On voit un exemple de ceci dans la gravure très célèbre de Rembrandt, Les 100 Florins, où on peut voir Jésus prêchant à une foule qui est divisée en deux parties. Nous avons la foule qui se trouve à sa gauche et la foule qui se trouve à sa droite. À sa droite, à sa gauche, on voit les pauvres et les malades qui accourent, des personnes qui accourent vers Jésus pour chercher auprès de lui le réconfort, la vérité, la guérison. Contrastons cela avec la foule à sa gauche, on voit à sa droite, on voit beaucoup de personnes aisées, des enseignants de la loi. Regarde comment ils parlent entre eux. Ils ne regardent même pas Jésus. Ils ne sont pas intéressés par ce que Jésus a à les offrir. Ils sont sourds à l'appel de l'amour. À mon avis, ce que nous montre ici Rembrandt, c'est que les deux fils avaient besoin de guérison et de pardon. Tous deux avaient besoin de revenir à la maison. Tous deux avaient besoin d'être embrassés par un père qui pardonne. Mais comme l'histoire semble l'indiquer, la plus difficile des deux conversions serait celle de celui qui est resté à la maison. À la différence d'un conte de fées, la parabole ne nous fournit pas un dénouement heureux. Et Rembrandt non plus ne nous révèle pas si le fils aîné finit par percevoir la vérité. Ce sont les deux fils qui sont responsables de la fin de leurs histoires respectives. Le fait que la parabole n'est pas complète nous fait comprendre sûrement que l'amour du père ne dépend pas du dénouement approprié ou non de l'histoire. L'amour du Père ne dépend que de lui et demeure un aspect de son caractère. Si vous lisez les commentaires sur cette œuvre, vous verrez une chose qui revient dans chaque commentaire, dans chaque description de cette œuvre et même dans des commentaires qui remontent à plusieurs siècles. Ils font tous ressortir un élément. Il s'agit ici d'un tableau d'un Père plein de compassion. En effet, c'est le véritable thème du tableau. C'est l'expression humaine de la compassion divine. Bien que Rembrandt ne place pas le Père physiquement au centre de son tableau, il est clair que le Père est le centre de l'événement dépeint dans ce tableau. La lumière émane de lui, toute l'attention est concentrée sur lui. Rembrandt, fidèle à la parabole, voulait que notre attention principale porte sur le Père avant toute autre personne. Au lieu de l'intituler « Le retour du fils prodigue », on aurait pu facilement l'appeler « L'accueil du Père plein de compassion ». La parabole, à vrai dire, est la parabole de l'amour du Père. En observant la manière dont Rembrandt représente le Père, on perçoit qu'il nous offre une méditation intense sur la tendresse, la miséricorde et le pardon. L'amour immense, plein de compassion de Dieu, n'a rarement, voire jamais, été exprimé dans l'histoire de l'art d'une manière aussi poignante. Chaque détail de sa personne, l'expression de son visage, son attitude, les couleurs de sa robe et avant tout, le geste de ses mains nous parle de l'amour divin pour l'humanité. Le portrait du Père dépeint par Rembrandt dégage une puissance irrésistible dans la mesure où ce qui est le plus divin est capté au travers
de ce qui est le plus humain. Je vois un vieillard aveugle, avec une moustache et une barbe, portant un vêtement brodé d'or et un manteau d'une rouge intense, posant ses grandes mains raidies sur les épaules de son fils revenu. Tout ceci est très spécifique, concret et descriptif. Toutefois, je vois aussi une compassion infinie, un amour inconditionnel, un pardon éternel, des réalités divines qui émanent du Père. Dans ce tableau, l'humain et le divin, la fragilité et la puissance, l'aveuglement et la véritable perception trouvent leur pleine expression. C'est tout le génie de Rembrandt. La vérité spirituelle est pleinement incarnée. Comme l'a dit le prêtre Paul Bodiquet, chez Rembrandt, le spirituel tire ses accents les plus forts et les plus splendides de la chair. Le père que nous montre Rembrandt est aveugle. Si vous voyez, un de ses yeux qui regarde dans cette direction et l'autre en bas, ce qui n'est pas possible si on voit. Le père que nous montre Rembrandt est aveugle. Mais si on connaît Rembrandt et la symbolique qu'il déploie, ce père n'est pas véritablement aveugle. Son aveuglement physique est une façon de montrer qu'il voit autre chose que ce qu'on peut percevoir seulement avec nos yeux physiques. Ce qui est intéressant ici à noter, c'est que la lumière émane de lui tout autant qu'elle l'enveloppe. Le Père porte en lui-même cette lumière lumineuse, mystérieuse, par laquelle il voit. C'est une lumière intérieure, profondément cachée, mais qui illumine tout ce qui l'entoure. Le fait que Rembrandt choisisse un vieillard aveugle pour communiquer l'amour de Dieu est particulièrement significatif. Car c'est au travers de son propre histoire que Rembrandt est amené à interpréter cette parabole de façon tout à fait unique. Après ses nombreuses épreuves, tant dans sa vie personnelle que dans son travail, il manifeste une fascination toute particulière pour les aveugles. On va voir, dans les dernières années de sa vie, il va peindre énormément d'aveugles. Au fur et à mesure que la lumière dans ses tableaux s'intériorise, il se met à peindre les aveugles comme les véritables croyants. Il est attiré par Tobit et Siméon, qui sont quasi aveugles, et il les a peints à plusieurs reprises. D'autre part, une question qui traverse en filigrane l'ensemble de ses œuvres religieuses est celle de la perception. Qui est-ce qui a la vraie vue? Qui voit vraiment et qui semble en voir est en vérité aveugle? Tandis que la vie de Rembrandt s'achemine vers les ombres de la vieillesse, que son succès se décline et que la splendeur extérieure de sa vie diminue, il perçoit davantage l'immense beauté de la vie intérieure. Je comprends maintenant pourquoi Rembrandt n'a pas suivi le texte littéral de la parabole. Dans ce passage des Écritures, Luc écrit « Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. » À une période antérieure de sa vie, Rembrandt avait dessiné cet événement avec tout le mouvement dramatique dont il est empreint. Mais en s'approchant de la mort, Rembrandt a choisi de représenter un père très immobile qui reconnaît son fils non avec ses yeux physiques, mais avec le regard intérieur de son cœur.
Il sent que les mains qui touchent le dos du fils revenu sont les instruments de la vision intérieure du père. Le père, aveugle, voit au-delà des limites. Sa vision est une vision éternelle, une vision qui s'étend à toute l'humanité. C'est une vision qui comprend l'état de perdition et la souffrance des hommes et des femmes en tout temps et en tout lieu. Les mains du Père sont le véritable centre du tableau. Toute la lumière se concentre sur elle. C'est sur elle que s'attardent les regards des spectateurs. C'est dans ses mains que la miséricorde devient chair. En elle, le pardon, la réconciliation et la guérison s'unissent. Et c'est au travers d'elle que le père épuisé, tout autant que le fils fatigué, trouve le repos. Regardons-les de près. Les deux sont tout à fait différentes. La main gauche du père qui touche l'épaule du fils est forte et musclée. Les doigts sont étendus et couvrent une grande partie de l'épaule et du dos du fils. Je vois une certaine pression, particulièrement du pouce. Cette main ne semble pas toucher, mais avec sa force tenir aussi. Quelle différence avec la main droite du père ? Cette main ne tient pas, ni ne saisit. Elle est raffinée, douce et très tendre. Les doigts sont rapprochés et ont un aspect élégant. Elle est posée doucement sur l'épaule du fils. Elle veut offrir la consolation et le réconfort. Comme beaucoup de commentaires le soulignent, et cela depuis plusieurs siècles, c'est la main d'une mère. Le père est plus qu'un grand patriarche. Dans la Bible, Dieu se décrit également comme une mère. La main droite, doucement caressante, rappelle les paroles de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. En voyant ce tableau, Van Gogh a écrit: pour peindre comme ça, il faut être mort plusieurs fois. Pour atteindre un tel degré de sensibilité et d'acuité, il me semble en effet que Rembrandt a eu besoin de traverser plusieurs morts. Les morts de ses chairs, la mort à son ambition, la mort à son renommée et gloire, la mort à la richesse et les plaisirs éphémères que pouvait lui offrir le pays lointain. Et c'est à travers de cette succession de morts que Rembrandt a pu saisir la mort et la douleur agonisante que Dieu lui-même a traversée dans la crucifixion de son fils. Le père de Rembrandt est un père vidé par la souffrance. À travers les maintes morts qu'il a subies, il est devenu complètement libre de donner et de recevoir. Ses mains étendues ne mendient pas, ne réclament pas, ne demandent pas. Ses mains sont la voie de l'amour. Peu de temps après avoir peint le père et ses mains bénissantes, Rembrandt meurt. Les mains de Rembrandt avaient peint d'innombrables visages et des mains humaines. Dans ce tableau, l'un de ces derniers, il a peint le visage et les mains de Dieu. Qui était le modèle pour ce portrait grandeur nature de Dieu? Rembrandt lui-même? Le père du fils prodigue est effectivement un autoportrait, mais pas au sens traditionnel de ce terme. Le visage de Rembrandt apparaît dans plusieurs de ses tableaux. Mais ici, ce n'est pas le visage de Rembrandt qui est reflété, mais bien son âme. L'âme du père qui avait souffert tant de deuil. Au cours de ses 63 ans de vie, Rembrandt a vu mourir non seulement les deux femmes qu'il aimait tendrement, mais aussi 5 de ses 6 enfants. Son fils Titus, tant aimé, est mort à 26 ans, de manière tragique, quelques mois après s'être marié. Titus est mort la même année qui peint ce tableau. Le chagrin qu'il éprouva pour Titus n'a jamais été décrit. Mais dans le père du fils prodigue, nous voyons combien de larmes cette perte lui avait coûté. Créé à l'image de Dieu, Rembrandt avait fini par découvrir, au travers d'une longue et pénible lutte, la véritable nature de cette image. C'est l'image d'un vieillard aveugle qui pleure avec tendresse et bénit son fils profondément blessé. Et Rembrandt a compris que c'est maintenant à son tour d'imiter ce père, le père, et d'offrir cet amour. Rembrandt était le fils. Il est devenu le père. Et c'est ainsi qu'il fut préparé à entrer dans la vie éternelle. J'aimerais maintenant terminer avec cette représentation de Siméon et l'enfant Jésus. Ce tableau est la toute dernière œuvre de Rembrandt, trouvée inachevée encore dans son atelier à sa mort. Lorsque Rembrandt meurt, il est presque sans possession. Le seul livre qui lui reste, c'est sa vieille Bible. À mon avis, ce tableau et l'histoire qu'elle raconte incarnent les derniers instants de Rembrandt. Voici le récit biblique que nous dépeint Rembrandt. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » J'espère que pour vous, le choix de Rembrandt pour ce sujet est illuminé par tout ce que nous avons découvert à son sujet au travers du retour du fils prodigue. Ici, le thème de l'aveuglement comme symbole de perception spirituelle trouve son expression la plus développée. L'aveugle qui voit l'éternité. N'est-ce pas une idée réaffirmée de façon saisissante ici, et pour la toute dernière fois? Qui mieux que Siméon peut incarner ce mystère, ce paradoxe, Et Rambo n'est-il pas lui-même ce vieillard qui, enfin, après un long cheminement et toute une vie, voit avec une clarté perçante que rien ne peut lui enlever la véritable identité de cet enfant venu parmi les hommes. Je vous laisse avec une prière écrite par un contemporain de Rembrandt. Personnellement, je pense que Rembrandt l'aurait beaucoup apprécié. Laissez-moi, avec Siméon, étreindre l'enfant nouveau-né sur mon cœur, l'embrasser avec une foi impérissable, rempli d'allégresse, parce qu'il est à moi et je suis à lui. En lui, tu m'as tant donné que le ciel ne pouvait donner davantage.